Pierre Dac ou la force de rire, par Antoine Perrault, lu par Arnaud Romain. Chronique. En 1965, alors que Louis le Prince Ringuet, né en 1901 et décédé en 2000, expert des rayons cosmiques auxquels nous devons la découverte du Maison U, coule des jours heureux au Collège de France où il déploie ses talents de physicien expérimentateur. Pierre Dac, sur la chaîne unique de l'ORTF, y va de sa contribution inégalable au progrès de la science et du partage herméneutique. En témoigne ce cours magistral sur le biglotron.
Le clepsoïde. Le clepsoïde qui, isolé du PX de l'intrudement par une armature en finiabulose inifuge, agit par capillarité médulaire sur le filuseur de télé d'économétrie différée, lequel, en vertu du phénomène d'osmose ondulatoire, érigé en principe par le célèbre physicien Jean-Marie Kesselavoulvoul, catalyse, en quelque sorte, le Spulsmull de dérivation qui est derrière, lequel, par voie de conséquence, se trouve entraîné par le bugmuche Michaseros spiroïdal en direction de la zone d'influence de la boustive de Rolvaï, dont le tuyau d'argoniaphonie spéculaire libère un certain volume de la Knaxpol, lequel, comme chacun le sait, n'est autre qu'un combiné de Smith-Puffre à l'état pur et de trophinium filtrant sulciféré. Bon, jusque-là, ça va. Maintenant, ça va être un peu plus compliqué.
L'occasion nous est donnée du 15 octobre 2020 au 28 février 2021 au Musée d'art et d'histoire du judaïsme, à Paris, de retrouver l'abondance altruiste de ce doux loufoque aux apoptegmes lumineux. Tout penseur avare de ses pensées est un penseur de radin. Et aux sentences insondables. L'orgue de barbarie est à la figue du même nom, ce que la trompette bouchée est au cidre. Notre actuel garde des Sceaux, maître Dupond-Moretti, semble au reste avoir bâti sa carrière sur un axiome forgé par Pierre Dac. On dit d'un accusé qu'il est cuit quand son avocat n'est pas cru. D'où l'importance de cette exposition intitulée « Pierre Dac, du côté d'ailleurs », qui donnera lieu, le dimanche 17 janvier 2021, à un colloque de titans au service d'une heuristique quasi vaticanesque. Contre tout ce qui est pour et pour tout ce qui est contre, avec la participation de l'essayiste Olivier Mongin et des historiens Philippe Landau et Pascal Horry, entre autres. Président fondateur du MOU, M-O-U, le mouvement ondulatoire unifié, avec l'appui d'une force de frappe colossale, en l'occurrence son journal Le Samoil, Pierre Dac se présenta en février 1965 à l'élection présidentielle. La première au suffrage universel, prévue pour le mois de décembre de cette année-là. Lors d'une conférence de presse loufoquissime, avaient surgi quelques mesures phares d'un programme prométhéen. Il suffisait d'y penser, durent se dire les tenants d'un gaullisme qui sembla soudain trembler sur ses bases. En effet, au nom du MOU, fut proposée l'Europe des Suisses. Cette initiative supérieure consistait, dans la mesure où la République helvétique est un modèle de solidité et de neutralité, à lui faire accorder une enclave dans chaque pays du vieux continent. D'une façon plus générale, planétaire et même cosmique, le bon sens parut gratter aux portes du pouvoir. La Charte des Nations Unies prévoit que tous les pays sont sur un pied d'égalité. Tant qu'on ne sera pas sur les deux, le système boitera. Enfin, les complexes et délicats rapports Est-Ouest trouvèrent un début de solution audacieuse. Étant donné la marche du soleil, nous tâcherons d'avoir des relations avec l'Est le matin et avec l'Ouest l'après-midi, le Moyen-Orient étant traité de midi à 2 heures et sur rendez-vous. Vous l'aurez compris, bien avant Coluche, lors du scrutin de 1981, Pierre Dac inventa une candidature d'intervention obéissant au parti d'en rire. L'association avec Francis Blanche, qui devait notamment donner le feuilleton radiophonique signé Furax, a empli les 25 dernières années de la vie de Pierre Dac et occupe une place de choix dans l'exposition du MAJ, le Musée d'art et d'histoire du judaïsme. L'attelage fonctionnait sur une dose d'improvisation souvent à peine contrôlée, comme dans la scénette gastronomique « La recette du water pudding ». Pierre Dac, déguisé en femme, c'était déjà l'une de ses spécialités dans les années 1930, préfigure le programme télévisé des années 1990, « La cuisine des mousquetaires » avec Maïté, et ce, dès 1956.
« Hello !»«
Quoi ?»«
Hello est-ce que vous parlez français ?»«
Pas un mot. » »«
Ah, vous parlez pas français ?»«
Non. » »«
Oui, mais comment ça se fait que je vous comprends, alors ?»«
Parce que je parle un anglais traduit en français. »«
Ah bon, d'accord. Mais quand vous parlez anglais, alors qu'est-ce que ça donne ?»«
L'espagnol. » »«
Ah bon ?»« How do you do, yo de poil ?»«
Et gno la matelas. » »«
Ah bah ça va, on va très bien s'entendre. Alors, si vous le voulez bien, nous allons réaliser... » pour les téléspectateurs, une recette franco-anglaise,
ouais.
Qui s'intitule d'ailleurs en français la terrine de gelée de merle sans merle, et en anglais
le water pudding.
Alors nous allons essayer de réaliser de concert cette recette.
Oui. Alors voici, là, nous avons pris des notes, n'est-ce pas? De manière à ce qu'il n'y ait pas d'équivoque.
Alors, Milady, voulez-vous que nous commencions? Vous prenez un litre d'eau ordinaire pris soin de faire préalablement bouillir.
Ben, il est là-dedans. Attendez voir, c'est bien bouilli?
Oui, c'est bien bouilli. Alors, un litre, comptez-moi un litre là-dedans, vous serez bien aimable.
Ne bougez pas. Mais ce sont les éléments fondamentaux de la cuisine anglaise.
Alors, deuxièmement...
Deuxièmement, quand elle est bien bouillie, enfin on a vu qu'elle était bien bouillie d'ailleurs, quand on met la main dedans, on s'en rend compte. Vous prenez un second litre d'eau.
Oui, que voici.
Que vous faites tiédir au bain-marie.
C'est fait, il est tiède.
Il est tiède.
Il est tiède au bain-marie.
Alors allons-y. Non, c'est pas ça. Vous versez un autre litre d'eau fraîche dans votre eau tiède.
Oui, c'est ça.
Alors c'est ça.
Mais goutte à goutte.
Oui, pour que ça fasse une bonne liaison, comprenez-vous.
Ah, ça y est, j'ai des grumeaux, là.
Vous avez des grumeaux.
J'ai des grumeaux, là.
Il y a qu'à les foutre en l'air.
Le duo Dac-Blanche s'était formé en décembre 1948 aux Trois Baudets, salle tout juste ouverte par Jacques Canetti. Né en 1909 et décédé en 1997, en lieu et place d'un dancing délabré entre les métros Blanche et Pigalle, au pied de la butte Montmartre. La fille de Jacques Canetti, Françoise, propose ce 15 octobre un CD regroupant les premiers sketchs de ces comiques échevelés. Au nombre de 12, ils firent partie de deux spectacles qui se jouèrent à guichet fermé. Le premier intitulé « 39°5 ». Le titre originel de Dac était « L'hebdomadaire des gens fiévreux », mais comme il ne tenait pas sur l'affiche, ce fut donc « 39°5 » sur proposition de Canetti. Et le second, « Sans issue », inspiré par la pancarte trônant au fond des Trois Baudets. Francis Blanche mit brutalement fin à sa collaboration avec Jacques Canetti quand celui-ci l'enjoignit de cesser, lors d'improvisations frôlant le paroxysme délirant, d'asperger le public du premier rang avec du Flitox, insecticide qui ne mégotait pas sur les merdouilles chimiques. La vidéo à retrouver dans le corps du papier consacré au water pudding en donne une petite idée. Pierre Dac, de son côté, avait en lui une violence rentrée, un dégoût prononcé, voire un désespoir inextinguible, l'ayant conduit à tenter par 4 fois de se suicider. Anti-hitlérien dès 1933, traqué en tant que juif, il s'appelait André Isaac, ayant gagné Londres après s'être fait arrêter puis emprisonné plusieurs fois en Espagne durant l'occupation nazie, l'humoriste avait pris sa part à l'effort de résistance au micro de la BBC à partir de 1943. Au point que le fasciste français Philippe Henriot, ministre de l'Information, liquidé par la résistance en juin 1944, allait malmener de la plus vile façon le « juif » Pierre Dac dans l'un de ses éditoriaux suintant la haine de Radio Paris. La riposte d'outre-Manche ne se fit pas attendre. L'extrait que voici est d'abord glaçante et ensuite bouleversante.
Le 15 août 1893, jour anniversaire de la naissance de Napoléon, s'il vous plaît, naissait à Chalon-sur-Marne un certain Isaac André, fils de Salomon et de Berthe Carr. Pareil à la plupart de ses coreligionnaires, il était secrètement fier de sa race, mais gêné par son nom. Incapable, bien entendu, de travailler à la grandeur d'un pays qui n'était pour lui qu'un pays de séjour passager, une provisoire pierre promise à exploiter, il se consacra à l'œuvre à laquelle tant de ses pareils se sont employés et il entreprit de jouer son rôle dans la démoralisation de ces goïms pour lesquels les siens ont toujours eu tant de mépris. Une sorte d'esprit desséchant et ricaneur, une perpétuelle aspersion d'ironie sur tout ce qu'on avait l'habitude de respecter, une sottise corrosive à force d'être poussée à l'extrême lui firent une clientèle.
Dans le Laïus que vous m'avez récemment consacré, vous écriez notamment « Et où nous atteignons les cimes du comique, c'est quand notre DAC prend la défense de la France. La France, qu'est-ce que cela peut bien signifier pour lui ?» Eh bien, monsieur Henriot, je vais vous le dire, ce que cela signifie pour moi, la France. Laissez-moi vous rappeler, en passant, que mes parents, mes grands-parents, mes arrière-grands-parents et d'autres, avant eux, sont originaires du pays d'Alsace, dont vous avez peut-être, par hasard, entendu parler, et en particulier de la charmante petite ville de Niederbronn, près de Haguenau, dans le Bas-Rhin. C'est un beau pays, l'Alsace, monsieur Henriot, où, depuis longtemps, on sait ce que cela signifie, la France, et aussi ce que cela signifie, l'Allemagne. Des campagnes napoléoniennes, en passant par celles de Crimée, d'Algérie, de 1870-71, de 14-18, jusqu'à ce jour, on a dans ma famille, moi y compris, monsieur Henriot, lourdement payé l'impôt de la souffrance, des larmes et du sang. Voilà, monsieur Henriot, ce que cela signifie pour moi, la France. Un dernier détail, puisque vous avez si complaisamment cité les prénoms de mon père et de ma mère, laissez-moi vous signaler que vous en avez oublié un, celui de mon frère. Je vais vous dire où vous pourrez le trouver. Si d'aventure vos pas vous conduisent du côté du cimetière Montparnasse, entrez par la porte de la rue Froidevaux. Tournez à gauche, dans l'allée, et à la sixième rangée, arrêtez-vous devant la dixième tombe. C'est là que reposent les restes de ce qui fut un beau, brave et joyeux garçon, fauché par les obus allemands le 8 octobre 1915 aux attaques de Champagne. C'était mon frère. Sur la modeste pierre, tous ses noms, prénoms et le numéro de son régiment, on lit cette simple inscription. Mort pour la France à l'âge de 28 ans. Voilà, monsieur Henriot, ce que cela signifie pour moi, la France. Sur votre tombe, si toutefois vous en avez une, il y aura aussi une inscription. Elle sera ainsi libellée. Philippe Henriot, mort pour Hitler, fusillé par les Français. Bonne nuit, monsieur Henriot, et dormez bien, si vous le pouvez.
On aurait été brisé à moins. L'épreuve de la guerre allait transformer Pierre Dac. Celui-ci continuerait de faire rire, tout en affrontant les démons de l'histoire. Il devait, parallèlement à ses activités de roi des loufoques, signer des textes contre le racisme et l'antisémitisme, s'engager dans des combats, toujours à recommencer, contre la bête immonde et ses résurgences. L'exposition consacre un espace passionnant à la pièce « L'instruction » Die Ermittlung de Peter Weiss, montée en 1966 par Gabriel Garand au théâtre de la commune d'Aubervilliers. Le texte reprend les minutes du procès ayant jugé de 1963 à 1965 à Francfort-sur-le-Main, en Allemagne, 22 responsables et gardiens du camp d'Auschwitz. Les 50 représentations de ce spectacle, conçu tel un oratorio en 11 chants, allaient drainer 15 000 spectateurs. Pierre Dac accepta d'emblée de jouer le rôle du président du tribunal. « Je suis avec vous car c'est mon devoir. Cette aventure est indispensable. Il faut par tous les moyens que la trace de faits aussi dramatiques demeure présente dans toutes les mémoires, afin qu'ils ne se reproduisent jamais. » En février 1975, quand Pierre Dac meurt, à 81 ans, 7 mois après Francis Blanche, qui n'avait que 52 ans, cet homme ayant passé sa vie à faire rire son monde aurait pu reprendre à son compte l'ultime phrase écrite par Henri Calais dans Peau d'ours. « Ne me secouez pas, je suis plein de larmes. » Étant donné qu'il avait la politesse du désespoir, Il nous aura taquinés, mais comblés avec un humour aussi cocasse que navré. Quand une personne à qui vous avez rendu service vous dit « Je ne sais pas comment vous remercier », répondez-lui. Quand vous le saurez, n'hésitez pas à venir me le dire. Merci. Merci tant et plus, Pierre Dac. Du jeudi 15 octobre 2020 jusqu'au dimanche 28 février 2021, Pierre Dac, du côté d'ailleurs, 71 rue du Temple, dans le 4e arrondissement de Paris. Le CD « Les sketchs inoxydables de Pierre Dac et Francis Blanche » enregistré au Théâtre des Trois Baudets est accompagné d'un livret de 12 pages. Des liens sont à retrouver à la fin de l'article.